8h20 à Paris, en France plus que quelques heures maintenant avant le silence électoral. La fin de la campagne express pour les législatives anticipées avant le premier tour dimanche, 3 semaines jour pour jour après les élections européennes et la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron. Le Rassemblement National victorieux le 9 juin reste aujourd'hui largement en tête des sondages. Cartographie, analyse et prospective électorale ce matin avec notre invité. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RFI. Vous êtes démographe et historien. Vous analysez depuis longtemps les votes pour l'ancien Front National et vous dites que vous n'avez jamais été inquiet jusqu'ici. Vous l'êtes aujourd'hui pour la première fois.
Oui, le risque est très grand que le Front National est le Rassemblement National et une majorité de députés à l'issue du second tour. La seule chose qu'on peut voir clairement, c'est le premier tour. Et je dois dire, je suis assez étonné que le président et son gouvernement n'aient pas anticipé, parce que quand un vote a lieu, surtout un vote qui a une certaine dynamique comme celui des européennes, cette dynamique se poursuit. C'est naturellement, il n'y a pas en 3 semaines, on ne peut pas attendre un retournement de l'opinion, sauf s'il y a un événement grave. Alors, il n'y a pas eu d'événement grave à part ces européennes. Donc, il est assez simple. Et c'est ce que j'ai fait, que j'ai publié dans l'hebdomadaire 01. Il est assez simple de reprendre la structure dans chaque circonscription, la structure aux européennes, et puis de l'ajuster aux résultats les plus récents des sondages, qui ne bougent pas tellement. Par exemple, ça veut dire qu'on remonte partout de 31,5 à 36% des voix proportionnellement les votes RN, qu'on remonte aussi les votes pour les gouvernementaux, de 14,5 à 20. En fait, j'ai même mis à 20,5. Et puis on regarde, et la figure qui s'en dégage est quand même assez inquiétante, puisque de cette manière-là, le RN est en tête dans 364 circonscriptions.
Au premier tour.
Au premier tour. C'est le premier tour.
Oui.
Et la gauche est en tête, le front de gauche, dans 175 circonscriptions et ensemble dans 11 circonscriptions en tête. Hein. Donc il y a un second tour. Mais même pour le second tour, la droite et puis la droite non RN et puis ensemble partent pas en bonne position, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent, s'il y a des triangulaires, ils sont beaucoup plus souvent en troisième position qu'en seconde.
Et souvent qualifiés avec un seuil très très mince.
Oui, c'est pour ça que donner le nombre de triangulaires est presque impossible, parce que tout tourne autour de... il faut avoir 20% à peu près pour les...
Ouais. Donc, que nous apprend la carte des élections européennes sur la progression du RN aujourd'hui?
La progression a été pratiquement homogène, elle est entre les législatives de 2022, surtout je prends le bon calage pour les européennes, c'est le premier tour de la présidentielle. Et là, vous avez une montée de, on passe de 23,5% à 31,5%, donc une montée de 8 points. Mais ce qui est a priori paradoxal, c'est que la montée est nettement plus forte là où le RN était déjà très fort, c'est-à-dire dans le Nord-Est.
C'est-à-dire plus il est fort quelque part, plus il monte encore.
Alors, c'est pas non plus énorme les différences, mais par exemple, pour la Bretagne, la montée est de l'ordre de 6%, mais pour Nord-Pas-de-Calais, elle est de l'ordre de 9,5%. Donc là où il était fort, il est devenu extrêmement fort. La Haute-Marne aussi est un très bon exemple. On trouve des villages maintenant qui votent à 65-70%.
Mais il y a un paradoxe assez important dans ces résultats du RN, dans ces tendances, ces résultats pour un parti qui concentre une grande part de son discours sur l'immigration et la sécurité. On voit que les scores les plus écrasants en faveur du RN sont dans les petites villes et les zones rurales, là où l'immigration est faible, voire inexistante, et là où l'insécurité n'est pas vraiment un sujet. Comment l'expliquer ?
C'est un constat, mais vous avez raison. J'ai fait un livre il y a 2 ans sur cette question qui n'est pas propre à la France. J'ai fait un livre en regardant localement les votes d'extrême droite et la proportion d'immigrés ou d'étrangers. Et quels que soient les pays qui nous entourent, c'est la même chose. C'est-à-dire, par exemple, en Suisse, c'est les cantons centraux, ces vieux cantons Uri, Schwitz et Unterwald, où il n'y a pratiquement pas d'immigrés qui votent à fond pour l'UDC, qui est le parti de proche de l'extrême droite, de Blücher. Inversement, Zurich, Genève votent très peu pour Blücher. En Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Ouest où sont les immigrés, c'est l'Allemagne de l'Est où l'AfD fait des gros scores. Et quand on fait la carte, c'est frappant, c'est l'ancienne Allemagne de l'Est.
Mais on arrive à expliquer pourquoi cet écart entre l'exposition et les...
C'est très difficile, mais pour la France, je pense que... on a très souvent parlé d'une rupture du lien social, mais je crois qu'on n'a pas assez parlé d'une rupture du lien territorial. Mmh. Et en France, ce lien territorial a été rompu avec l'arrivée de Macron au pouvoir. Un cas très remarquable, c'est la suppression de la taxe d'habitation. C'était essentiel pour les petites communes parce que ça leur permettait d'avoir des décisions locales. Maintenant, elles sont obligées de le quémander pour avoir une compensation. C'est tout à fait... différents. Même chose au niveau des départements. On avait un tissu, si vous voulez, politique qui répondait à la centralisation. Il y avait les maires qui avaient une certaine liberté d'action, qui était respectée. Puis ensuite, vous aviez les départements, les anciens conseils généraux. Puis on remontait les députés, puis on arrivait en haut. Le macronisme a cassé ça. Si on et d'ailleurs, c'est remarquable que Macron dit, voilà, je m'adresse au peuple directement, comme s'il n'y avait pas de corps intermédiaire. Et cette suppression des corps intermédiaires, puis ça va plus largement, y compris l'avis des syndicats, je pense, a créé un très grand sentiment de frustration dans les zones qui sont éloignées du pouvoir central.
Avec le suspense du second tour, les triangulaires qui se profilent, on voit apparaître le concept américain de swing circo, de circonscription clé. Que faudra-t-il regarder, ou faudra-t-il regarder sur la carte, au soir du premier tour, pour commencer à anticiper le second?
Alors, il va falloir regarder la France de l'Ouest et du Sud-Ouest, parce que c'est là que les changements peuvent se produire, qui vont tenir d'ailleurs au report. Mais je suis assez sceptique sur les reports, étant donné la forme qu'a prise la campagne. Les reports sont dictés beaucoup plus largement, cette fois-là, par du conjoncturel, par la manière dont se passe la campagne. Et les attaques de Ensemble et du gouvernement contre la gauche vont sans doute rendre difficiles les rapports de gauche, là où il serait nécessaire pour que Ensemble et des députés.
De là à dire que le signe égal mis par la majorité entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National a contribué, contribuera au score de l'extrême droite au soir du second tour?
Oui, je pense très nettement, parce que beaucoup d'électeurs bons, qui est des électeurs extrémistes, pas simplement des électeurs, qui est des candidats extrêmes à LFI, pas tous, mais un certain nombre, oui, bien sûr, mais là, maintenant, clairement, la masse du front du nouveau Front Populaire. Il y a quand même les écologistes, il y a quand même les socialistes qui, avec Glucksmann, ont fait un bon score. Donc c'est eux qui représentent autant la majorité. Ils auront très mal supporté d'être traités d'antisémites et de choses comme ça. Là, ça va pas, si vous voulez.
Il nous reste une minute, Hervé Lebras. On voit que plus le RN est implanté localement, plus il grimpe. Même si le parti n'obtient pas la majorité le 7 juillet, il aura beaucoup plus de députés, plus de 200 probablement. Ça va amplifier inévitablement la dynamique RN pour 2027.
C'est pas forcé, parce que là, c'est un horizon trop lointain. Il est possible, c'est d'ailleurs, je crois, l'espoir, le dernier espoir qui est nourri au gouvernement, c'est qu'il se montre peu capable de gérer la France. Il faut se méfier, parce que l'expérience de l'Italie est là pour nous montrer que deux choses, pour nous montrer que un, le RN, comme Meloni, peut se débrouiller, mais surtout deux, il faut bien voir que les partis d'extrême droite, quand ils prennent le pouvoir, ils le prennent vraiment. C'est-à-dire, ils cherchent à éliminer les cours suprêmes, donc
merci.
Le Conseil constitutionnel, ils mettent leurs hommes à la télévision, etc.
Merci Hervé Lebras, hélas le temps nous manque. Historien, démographe, invité d'RFI Matin, très bonne journée.